Seule la route sépare la falaise de Beynac de la Dordogne. La paroi plonge dans l'eau par une série de corniches de surplomb. Chaque terrasse étroite supporte une maison. 130 mètres plus haut, le château surplombe le vide. Avec ses hautes tours et ses créneaux, c'est la plus belle forteresse de toute la vallée. L'hôtel Bonnet se trouve au pied de la falaise, tout à côté de la source. L'endroit correspond à ce que les guides touristiques français appellent « centre animé » en décrivant un lieu. Ce n'est pas une fontaine monumentale, mais c'est un simple tuyau de métal planté dans le roc, d'où l'eau jaillit et retombe dans un bassin de pierre rectangulaire en bordure de route. Un second bassin récupère le trop-plein, puis l'eau passe sous la chaussée pour se déverser dans la Dordogne. Il aura fallu l'éternité des temps géologiques pour faire naître la source de Beynac, mais la source a fait naître le plus petit bourg il y a environ 800 ans. Sans elle, aucun château n'aurait pu être édifié sur cette falaise, malgré l'idée fixe des barons du Moyen-Âge, percher leur nid d'aigle au plus haut des rochers. Certes, le château dispose de citernes, mais l'eau ainsi récupérée l'hiver ne suffit pas pour traverser un été sec, même en se limitant aux seuls besoins des hommes et des bêtes au service du Seigneur et de ses hommes d'armes. Jusqu'à ce qu'une administration bienveillante décide de forer le roc pour établir 3 ou 4 captages supplémentaires à l'usage du haut du bourg, tous les habitants de Beynac devaient descendre à la source matin et soir pour y remplir leurs baquets. La source draine toute la colline située derrière la falaise. Elle coule, claire et froide, d'un jet puissant qui n'a jamais faibli, même pendant la terrible sécheresse de 1949. Aujourd'hui, l'endroit reste très fréquenté. Tôt le matin, le second bassin est déjà plein de draps en train de tremper. La fontaine elle-même et le premier bassin sont eux strictement réservés à l'usage des hommes et des bêtes. Personne ne se permettrait de rincer sa lessive dans l'eau que boivent les animaux. Sur le quai, où accostait le bac, les deux grosses marmites noircies chauffent sur des feux de bois. On a fait bouillir des dizaines de draps avant de les rincer dans le bassin, puis de les étendre sur les murs, d'où on les décrochera une fois secs, d'un blanc éclatant et sentant bon le soleil. Après l'inactivité silencieuse d'un jour de canicule, tout Beynac se réveille en fin d'après-midi. C'est l'heure où les clients de l'hôtel Bonnet, installés sous la tonnelle de vignes vierges qui ombrage la terrasse, peuvent observer la vie locale, tout au moins ce qui se déroule à l'extérieur des vieilles maisons, des murs de pierre et des volets clos. Car toute la vie sociale se concentre dans ces quelques mètres carrés, entre la fontaine et l'hôtel, là où la route s'élargit par une placette triangulaire et où le quai, pentu du bac en contrebas, plonge dans l'eau. Tandis que la chaleur décline, les baigneurs traversent la chaussée, montent à bord de barques étroites, l'unique moyen de transport sur la rivière, et à la perche, rejoignent la rive opposée, baptisée non sans emphase la plage. La rivière est profonde et le courant fort. Plus tard l'été, elle sera beaucoup plus basse. Même en juin, l'eau est à peine fraîche. Elle est revigorante pour les corps accablés par le soleil écrasant de l'été. Quelques-uns des baigneurs sont des hommes ou des garçons de Beynac. Les autres, dont quelques femmes, des clients de l'hôtel. Les plus vieux amphibiens du village, eux, préfèrent largement la pêche à la baignade. Debout, dans leur barque, ils lancent leur canne à la rencontre du poisson qui commence à se manifester au crépuscule. Ceux qui espèrent des captures plus abondantes tendent des filets soutenus par des flotteurs qu'ils viendront relever le lendemain matin. La pêche est la principale distraction des gens des bords de la Dordogne. On peut affirmer que tous savent pêcher et que la plupart le font. Mais ils pêchent autant pour se nourrir que par plaisir. La dernière fournée de draps est à peine lavée que les gamins se rassemblent pour leur jeu du soir. Ils sont à peine une dizaine même en comptant les enfants de la famille blonde, venue de Paris qui a loué pour la durée des vacances une maison voisine de l'hôtel. Le groupe, hétéroclite, rassemble aussi bien un garçon de 15 ans qui travaille déjà à la ferme que deux bambins de 2 ans. Dans un groupe aussi restreint, l'âge ne compte guère, encore moins les origines sociales. Ils jouent au ballon, jeu auquel ils se montrent particulièrement habiles, y compris les marmots qui courent entre les jambes des plus grands en braillant pour avoir la balle. Puis le jeu s'interrompt et les enfants se mettent à faire des tours sur le vélo du fils blonde, ce qui lui donne du pouvoir et de l'autorité sur les autres, mais tempéré par le solide sens de l'équité de la bande, et lui permet de chercher à gagner l'amitié du jeune fermier qu'il admire. Sa petite sœur, qui est le portrait craché d'Alice au Pays des Merveilles, cherche fébrilement quelque chose dans le minuscule jardin potager le long du quai. Et Michel, le fils de l'hôtelier, qui a bon cœur, va l'aider. C'est sa tortue, explique la serveuse venue s'occuper des clients de la terrasse. Elle se fait du souci pour elle. Mais maintenant, on entend les voix maternelles appeler les enfants, avec cette inimitable intonation du soir qui prévient sur un ton de menace croissante. Privé de dîner si vous ne rentrez pas immédiatement. En un clin d'œil, les gamins s'éparpillent. Arrivent alors les bêtes. D'abord une vache rousse venue d'une étable au rez-de-chaussée d'une maison et que l'on abreuve. Puis un cheval monté par un jeune garçon. Le petit fermier réapparaît cette fois en menant une paire de bœufs sous le joug. Il ne les fait pas boire, peut-être parce qu'ils ne le peuvent pas ainsi harnacher. Un homme descend d'un atelier situé dans le haut du bourg. Il se déshabille jusqu'à la ceinture et se lave la tête et les bras. Ce doit être un adepte de l'hygiène moderne. Régulièrement, les gens viennent remplir leurs cruches d'eau fraîche. Certes, l'hôtel dispose d'eau courante, mais celle-ci a tiédi dans la citerne. Et tous les clients, avant d'aller se coucher, vont chercher une bouteille d'eau à la source pour boire frais pendant la nuit. À leur tour, les pêcheurs sont rentrés chez eux. Ils se sont arrêtés quelques minutes pour échanger les dernières nouvelles avant de se disperser. Vers le pont de chemin de fer, au loin, la rivière vide et tranquille dessine une grande courbe et brille comme un acier poli sous le ciel vert jade. Vers l'est, la falaise ocre où se dressent les ruines de Castelnau, le château rival, flamboie encore dans un dernier rayon de soleil. Deux ou trois jeunes gens restent assis sur le bord du parapet. Mais qui va les rejoindre? Probablement personne. Et quand leurs rires se sont éteints, il n'y aura alors plus aucun bruit, sauf le clapotis de la source coulante régulièrement dans son bassin.